Bonjour.
Vous êtes la maman de deux enfants, Benoît, qui va sur ses 18 ans, Thaïs, de 2 ans, sa cadette. Et rapidement, après la naissance de votre fils, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez ce bébé. Qu'est-ce qui vous a alerté ?
Les hématomes sur son corps. On rentrait de vacances. Après 3 jours à Majorque, on se rendait compte qu'il avait nos marques, nos doigts sur son corps. Il avait 11 mois, ce qui est assez tard pour l'hémophilie. La découverte de l'hémophilie, on la retrouve avant. Et on est arrivé chez le pédiatre en se disant, mais il y a quelque chose qui ne joue pas.
Comment ça s'est passé, la première rencontre avec le pédiatre ?
Ah bah pas bien. Parce qu'on avait fait tous les... Normalement, il y a des protocoles très particuliers pour les hémophiles, ne serait-ce que pour un vaccin. Et tous les vaccins de Benoît jusqu'à l'âge de 11 mois avaient été couronnés de succès et il n'y avait rien qui pouvait nous alerter. Donc là, la première réaction des deux pédiatres dans ce cabinet, c'était maltraitance.
Donc il a des bleus, l'a frappé.
Oui, on l'a frappé. Donc j'ai passé un interrogatoire assez serré, assez sérieux. Même l'infirmière qui était là, j'ai pas vu tout de suite, il y avait la balance en face de moi, mais elle a pris Benoît et elle est partie. Et je suis restée seule, en prétextant qu'ils allaient peser Benoît. Et finalement, en fait, non, ils étaient juste en train de me l'enlever jusqu'à ce que je donne les bonnes réponses ou pas. Parce qu'il est du devoir d'un pédiatre d'alerter tout de suite les autorités compétentes.
Ce qui paraît logique, effectivement. Sauf que là, c'était une maladie, cette maladie de l'hémophilie, qui on peut résumer ça en disant que c'est un problème, un défaut de la coagulation. Ça veut dire que on va se vider de son sang après n'importe quelle petite blessure. En résumé, c'est ça. C'est l'image qu'on en a dans le grand public.
Alors ça, c'est terrible. Mais parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hémophilie, c'est tellement vicieux. Donc, dans le jargon, un hémophile, quand il se coupe, il saigne. Mais tant mieux, parce qu'au moins on voit. Tout ce que le public ignore, c'est que ces hémorragies-là, elles ne se voient pas. Et elles sont... on doit attendre longtemps, surtout quand c'est un petit bébé, on doit attendre longtemps avant de pouvoir dire « Ok, c'est grave, là il y a quelque chose qui ne joue plus ». Mais il ne parle pas et tout est interne.
Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des hémorragies internes. Oui. Il y a ce corps qui marque ces hématomes qu'il y avait chez votre fils qui vous ont mis la puce à l'oreille.
Alors les hématomes, c'est ce qui est visible. Et tant mieux, et il en faut. Et le passage chez les pédiatres qui n'était pas forcément sympathique, il est obligé. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'est pas facile. Donc effectivement, ça c'est obligé. Après, ce qui se voit est un grand bénéfice. Parce qu'il y a une partie très obscure dans cette maladie qui ne se verra jamais. Une hémorragie du psoas qui passe dans la fesse. Le jour où on l'a découvert, il avait 1,5 cm de différence entre la fesse gauche et la fesse droite. La seule chose que je comprenais, moi, c'est qu'il hurlait chaque fois que je la mettais dans la chaise haute. Par exemple, mais il avait 14-15 mois. Ça parle pas, hein.
Mais alors, justement, une fois que le premier diagnostic de l'hémophilie est posé, est-ce qu'il y a eu un réapprentissage de la vie de tous les jours avec des gestes à adopter ou justement à bannir ?
Il y a tout qui s'éclaire. C'est-à-dire qu'un hématome, quand vous serrez un pampers, des fois c'est moi, des fois c'est son papa, des fois c'est les grands-mamans. Donc au bout d'un moment, je leur disais, mais arrêtez de serrer. Il y en a une de nous qui fait ça trop fort. Or non, c'est juste une compression. Et il faut savoir qu'un hémophile peut faire sur un pampers, sur les attaches du pampers, un hématome par exemple. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va devoir effectivement apprendre, réagir, comprendre. Et au moment où la compréhension arrive, tout devient beaucoup plus simple. Mais c'est un apprentissage de tous les jours et de toutes les heures au départ.
Sauf qu'une fois ce diagnostic posé, une fois cet apprentissage fait, vous n'étiez pas au bout du parcours médical, puisque votre fils, il est hémophile. mais pas seulement. Et vous avez dû aller jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Boston, pour rencontrer un spécialiste qui va vous apprendre que Benoît, il est hémophile, mais en plus, il est atteint de maladies orphelines, donc rarissimes.
Voilà. Donc, le centre roman, il est principalement basé au CHUV. Donc, au CHUV, pendant 9 ans, on essaye de trouver les meilleures solutions, les meilleures techniques médicales qui sont encore... qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est aujourd'hui fait. Ou... Je dirais que tous les 15 ans, il y a une énorme avancée, même dans les maladies rares. Il faut quand même le noter, parce que souvent on se dit « oui, bon, il n'y a pas de traitement ». Si, il y en a, et ils sont bien. Mais ça ne suffisait pas. Et voir Benoît faire des hémorragies ou saigner du nez... mais vraiment saigner du nez, hein, comme un vrai hémophile, c'est très impressionnant. Et quand ça arrive tous les 2, 3 jours, 5 jours, où on a 10 jours de repos, puis après ça recommence, finalement, on ne comprenait plus. Hein. Et moi, je disais, mais cet enfant, il est en train de s'habituer aux doses qu'on lui donne, et il va falloir augmenter. Seulement en augmentant, ça ne fonctionnait toujours pas.
Et en fait, il avait les doses en adulte alors qu'il avait 8-9 ans. Hein.
Mais oui. Et finalement, je me disais, mais on est en train de le droguer. Sauf que, techniquement, en 2 mots, une protéine, on ne drogue personne avec une protéine. Donc, il y avait toutes ces multitudes de questions. Et je leur ai proposé. J'ai dit, écoutez, il y a... évidemment, quand vous êtes maman avec un ordinateur dans les mains, le monde s'ouvre à vous. Donc, effectivement, j'ai commencé à chercher. Et ils ne sont pas très... Il y a un ego quand même dans la médecine, il faut le savoir. Et ils ne sont pas très enclins à dire « Ok, vous pouvez partir à gauche, à droite. » Mais j'avais quelqu'un à côté de moi qui collaborait extraordinairement bien et qui m'a dit « Ok, vous pouvez partir, mais alors attention, vous ne partirez qu'une fois. Je vais vous faire tous les rapports qu'il faut, je vais vous aider, je comprends votre démarche. C'est un gros risque pour moi parce que soit je me suis trompée, j'ai passé à côté de quelque chose de minime et que je n'ai pas vu, soit alors vous allez au-devant de quelque chose qui va être énorme. Et je suis partie seule avec Benoît. J'ai vu au Howard Hospital of Children à Boston, effectivement, on a vu des pontes qui nous ont dit, si on trouve quelque chose, à ce moment-là, ça sera inédit. Et on a retrouvé quelque chose qui est dans l'improbabilité totale, c'est-à-dire que Benoît a une déficience, alors c'est très compliqué, mais pour faire très simple, dans son corps, il y a l'hémophilie et le contraire de l'hémophilie. C'est-à-dire qu'à plus on donne de médicaments, à plus l'autre maladie orpheline, elle va se réveiller en disant « oups, 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 ça c'est faux ». Donc en fait, et clairement, chaque fois qu'on lui donne quelque chose, il va réagir autrement.
Il va si sur ses 18 ans, Benoît, il va comment ?
Alors Benoît, il va bien. Benoît, il vous dira toujours qu'il va bien parce qu'il n'a pas l'occasion de vivre une autre vie qu'est la sienne. Par conséquent, pour lui, c'est normal.
Il vous parle de son ressenti par rapport à la maladie, par rapport à votre engagement sans faille à ses côtés, parce que à 18 ans, j'imagine qu'avec cette maladie, il ne peut pas avoir les mêmes activités que les autres jeunes de son âge. Je pense au sport, par exemple.
Alors, il n'a pas attendu 18 ans pour nous en parler, parce que très rapidement... Une somme de frustration est arrivée, hein, ne serait-ce que le mettre en première primaire à l'école, où on vous annonce la patinoire, la piscine, la gym. Benoît. Donc, rapidement, on a dû essayer de lui expliquer qu'il y aura d'autres choses qui vont s'ouvrir à lui, mais pas forcément le sport. Alors, il y en a un qui l'a trouvé et qui est extraordinaire, c'est le golf. Le golf n'a aucun impact, n'a pas... Donc, lui, il excelle dans le golf parce que souvent, il me dit, j'ai pas le choix, j'ai que celui-là.
Hein. C'est pas mal. Au moins, il y en a un.
Voilà, il y en a un, positif toujours. Donc, on en a trouvé un.
Alors, on le disait tout à l'heure, la Journée mondiale de l'hémophilie, aujourd'hui, 17 avril, elle a notamment pour but l'intégration des malades. C'est quelque chose qui vous pose question, qui vous angoisse aussi, peut-être un peu, cette intégration dans la vie d'adulte, dans le monde professionnel, dans la vie tout court, pour votre grand fiston ?
Ça c'est sûr, mais à plein de niveaux, il va y avoir rapidement un problème d'assurance, il va y avoir rapidement un problème sur les choix des métiers. Mais pour l'instant, Benoît, lui, tout ce qu'il veut, c'est étudier. Donc, il a un cursus universitaire qui s'ouvre à lui. Donc, mais c'est clair qu'il ne va pas pouvoir faire maçon, hein, ça c'est sûr. Même si c'était son vœu le plus cher, ce serait totalement impensable. Donc là aussi, il y a plein de contraintes. Il doit allier une vie différente à des métiers qui pourraient aller ou pas.
Oui. Vous avez aussi raconté votre combat aux côtés de votre fils dans un livre, L'hémoglobine, publié chez Attinger. Ce livre, ça a été quoi pour vous? Une façon de prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport à votre quotidien? Une sorte de thérapie aussi peut-être?
Alors je l'ai écrit ce livre avec l'accord de ma psychiatre. Parce qu'il faut savoir qu'une vie comme ça, c'est tous les jours. Et c'est le jour et la nuit. Donc tout d'un coup, vous êtes submergé par beaucoup de choses. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai perdu la mémoire d'un jour à l'autre, comme un blackout, où mon corps un jour a dit « stop, maintenant ça suffit ». Et j'avais avancé déjà beaucoup dans la médecine avec Benoît et j'avais peur de perdre. J'avais peur de ne pas me souvenir, j'avais peur de ne pas leur laisser une trace de leur vécu, et à sa sœur et à Benoît. Donc, une thérapie, pas forcément parce que j'étais en thérapie, mais c'était plus pour laisser un témoignage, justement, sur cette vie qui est et qui ne sera jamais normale, en quelque sorte. À nous de la rendre normale.
Stéphanie Trisconi, le temps passe décidément très vite en votre compagnie. On a encore plein de choses à vous demander. On vous réinvitera, tiens, pour en parler un peu plus longuement. On rappelle, le livre, c'est L'hémoglobine, publié chez Attinger. On mettra évidemment toutes les coordonnées tout à l'heure sur la page de Format A3. On vous remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir rejoints ce matin. Et puis, nos salutations et nos voeux pour la suite à Benoît, et également à Thaïs, la petite sœur qui est bien embarquée hein, aussi dans cette histoire, ce combat qui touche toute la famille. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une belle journée.
Merci à vous aussi.